franceinter.fr.
Et depuis longtemps, les neurobiologistes qui cherchent à comprendre l'influence du sommeil sur les mécanismes de la mémoire et deux grandes théories qui prédominent dans ce domaine, celle de la réactivation au cours de laquelle le sommeil renforcerait les souvenirs importants, et puis celle de l'oubli, le sommeil permettrait au contraire d'oublier donc les souvenirs inutiles. En apparence donc, elles sont opposées, ces deux théories, eh bien elles ne pourraient ne faire qu'une au regard de deux publications publiées la semaine dernière dans la revue Science. Karim Benchenan, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur CNRS en neurosciences à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle. Donc on a deux théories, c'est ça, autour du sommeil et de la mémoire. Sur quoi elles se basent alors exactement?
Oui, comme vous l'avez dit, on peut les résumer par le sommeil, ça consolide la mémoire, ou bien le sommeil, ça permet d'oublier les faux souvenirs. En fait, les scientifiques parlent en termes un peu différents, parce qu'en gros, la mémoire, c'est le renforcement des connexions synaptiques dans le cerveau. Donc les neurones communiquent entre eux par des synapses, et on considère que l'apprentissage, c'est de renforcer la force des synapses pendant l'éveil. Et un des problèmes, c'est que cette communication, ça consomme de l'énergie. Mmh. Et donc si on faisait que d'apprendre pendant l'éveil, en fait ça consommerait de plus en plus d'énergie.
On ferait exploser la cocotte minute.
Ouais. Et donc c'est de cette observation que Giulio Tononi et Chiara Cirelli ont émis l'hypothèse, en reprenant des hypothèses apportées par Francis Crick, que le sommeil serait utilisé pour diminuer le poids des synapses. Et donc le sommeil serait le prix à payer pour la capacité d'apprendre pendant l'éveil. Et donc c'est une théorie qui est extrêmement élégante, qui permet de coupler l'apprentissage de l'éveil avec le contrôle des stocks énergétiques, et le sommeil sera important là-dessus.
Et on aime l'élégance en science.
Voilà, c'est très 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 élégant. Et donc d'après cette théorie, pendant le sommeil, le cerveau ne fait que diminuer les poids synaptiques. Et donc ça entre en conflit direct avec l'autre théorie majeure du rôle du sommeil dans la mémoire. C'est que pendant le sommeil, on rejoue les informations pertinentes, et le fait de les rejouer les consolide. Et donc d'après cette théorie, il faudrait qu'il y ait de la plasticité pendant le sommeil, et notamment une augmentation de certains poids synaptiques. Donc il y a les versions très orthodoxes des deux théories. Certains disent il n'y a que du diminution des poids synaptiques pendant le sommeil, d'autres qui disent il n'y a que une augmentation. Et un des problèmes pour répondre à cette question, c'est qu'on est limité techniquement, parce qu'on ne peut pas augmenter mesurer le poids des synapses de tout le cerveau pendant l'éveil et pendant le sommeil. Et donc, on n'avait que des preuves indirectes. Et là, l'étude, donc notamment l'étude de Tononi dans Science, a utilisé un peu l'arme atomique pour mesurer ça. C'est d'utiliser de la microscopie électronique, donc de regarder directement les synapses dans le cerveau d'animaux qui étaient éveillés ou qui dormaient. Et on regardait vraiment la taille des synapses.
Alors, ils ont vu que pendant la nuit, majoritairement, la taille des synapses diminuait. Est-ce qu'on peut vraiment dire que ça veut dire que l'animal, puisque là c'est des souris, est en train d'oublier?
Voilà, donc en gros, une des choses que cette étude montre clairement, c'est que la majorité des synapses ont tendance à diminuer leur taille, et donc qu'il y aurait effectivement de la dépression. Il montre quand même qu'il y en a certaines qui augmentent, notamment le deuxième article. Le problème, c'est de passer de cette observation à l'oubli. C'est très 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 difficile de montrer chez l'animal qu'un animal oublie, parce que si on améliore certains souvenirs, on améliore la performance, et si on diminue les souvenirs non relevants, on va également améliorer la performance. Donc le passage de il y a une diminution des poids des synapses à l'oubli est une extrapolation assez exagérée par rapport aux observations que l'on peut faire.
Et au final, est-ce que les deux théories ne sont pas simplement complémentaires? Parce que oublier une partie des choses, ça revient pas exactement au même que de renforcer le reste?
Voilà, exactement. Et c'est un peu ce que montre lorsqu'on regarde les détails des études. C'est, on peut tout à fait avoir les deux théories qui coexistent. À savoir, on oublie les informations non relevantes et on améliore celles qui sont pertinentes. Donc en gros, les deux théories peuvent parfaitement coexister. Et les spécialistes, en regardant les études, trouvent des arguments pour les deux. Donc ça va pas régler la guerre, les deux.
C'est un peu la théorie du tout du sommeil, hein, en fait. Hein, si on arrive à unifier comme ça ces deux théories.
Alors c'est pas le tout du sommeil, parce que en gros le sommeil, on sait qu'il est important pour énormément de choses. On insiste énormément sur l'effet du sommeil sur la mémoire, parce qu'on arrive à comprendre les mécanismes au niveau neuronaux. C'est pour ça qu'on parle
sur
beaucoup
la mémoire,
du sommeil. Exactement.
Absolument. Ouais.
Quand on regarde à une autre échelle, c'est-à-dire qu'on regarde des animaux ou des hommes qui sont privés de sommeil ou qui dorment beaucoup, est-ce qu'on voit ces effets apparaître?
En gros, lorsqu'on fait des privations de sommeil, les plus gros déficits qu'on voit, c'est des déficits attentionnels sur la fatigue ou sur les choses comme ça. Donc la première chose qu'on va observer sont de cet ordre-là. Et on voit également des déficits de mémoire. Mais en gros, l'effet principal du sommeil serait plus sur des fonctions du système immunitaire, sur le système énergétique, sur le système de tout ce qui est attention. Mais par contre, on comprend comment le sommeil a un effet bénéfique sur la mémoire.
Tous les travaux de microscopie sont faits sur des rongeurs, bien sûr. Est-ce que vraiment la mémoire ou l'apprentissage des rongeurs et des souris, c'est la même chose que dans notre cerveau?
C'est transposable à l'homme, oui.
C'est-à-dire qu'en gros, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que la majorité des résultats obtenus sur le lien entre sommeil et mémoire obtenus chez des rongeurs a été transposé à l'homme. C'est-à-dire que, par exemple, on voit que certaines oscillations sont importantes chez le rongeur, et lorsqu'on manipule ces oscillations chez l'homme, on peut améliorer les effets bénéfiques du sommeil sur la mémoire. Et il y a notamment certaines start-up qui essaient maintenant d'utiliser des mécanismes permettant d'augmenter ces oscillations pour améliorer la mémoire.
Une dernière question très large. Concrètement, on sait aujourd'hui ce que c'est dans notre cerveau un souvenir?
Non.
Non, on n'a pas de réponse à ça?
Non, on sait, il y a certaines structures du cerveau qui sont importantes, puisque lorsqu'elles sont détruites, il y a des problèmes de mémorisation. On a d'énormes hypothèses que le souvenir, c'est une modification de la façon dont les neurones communiquent entre eux. Mais hormis ça, on ne sait pas grand-chose d'autre.
Gilles Dewey, est-ce qu'on pourrait utiliser des algorithmes pour calculer le poids des synapses, par exemple? Parce que la biologie et les mathématiques, ça fait bon ménage. Hein,
oui, ça fait très bon ménage, et l'informatique et la biologie aussi. D'ailleurs, en écoutant Karim, il y avait un certain nombre de mots qui revenaient, qui sont intéressants, et qu'on n'aurait sans doute pas entendu dans la bouche d'un biologiste au 19e siècle.
Lesquels, par exemple?
Au 20e siècle. Ouais. Le mot mécanisme, par exemple. C'est-à-dire le fait de poser la question du fonctionnement du cerveau comme quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre dans le cerveau. C'est une manière assez récente, assez contemporaine, de poser les questions en science. Et on voit un petit peu une empreinte du monde des algorithmes, du temps des algorithmes, sur la manière dont on discute les questions en biologie, et en biologie du cerveau, mais également en biologie de la cellule, par exemple.
Karim El Shenan.
Oui, il y a beaucoup de choses dont on s'inspire respectivement dans le domaine des algorithmes, notamment dans le machine learning. Il y a des algorithmes qui s'appellent Wake Sleep.
C'est quoi le machine learning, s'il vous plaît?
Pardon. Hein, c'est les algorithmes justement qui permettent d'apprendre à des programmes informatiques.
Qui permettent à des machines d'apprendre.
Merci. Voilà.
Et donc en fait, il y a des théories qui disent qu'on peut avoir des phases actives d'apprentissage et des phases inactives en offline, qui permettent de rejouer les informations pour faire converger des algorithmes.
Alors, j'allais dire, il y a aussi le mot mémoire, mais là, ça serait un peu exagéré, parce que peut-être que les biologistes, et spécialement les spécialistes du cerveau, ont parlé de mémoire avant les informaticiens.
Karim Ben Shenan, aujourd'hui, les chercheurs qui travaillent sur les intelligences artificielles lisent toutes ces publications de neurobiologistes sur le cerveau?
Oui, mais dans les deux cas, par exemple, il y a sur la mémoire, il y a d'abord des expériences de pensée. Par exemple, Descartes disait déjà que la mémoire des mots et la mémoire motrice n'étaient pas la même. Il y a également d'énormes travaux en modélisation dans les années 50 et dans les années jusqu'aux 50-70, où cette consolidation de la mémoire, par exemple, a été proposée par des modélisateurs, notamment David Marr, etc. Et d'autres façons, par exemple, l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire que quand on a une récompense, il y avait ce qu'on appelle la prédiction d'erreur, qui a été en fait proposée par des informaticiens pour expliquer comment un organisme pouvait apprendre, et on s'est aperçu après que dans le cerveau, il y avait des neurones qui suivaient exactement cette règle.
Merci en tout cas Karim Benchenan pour cet éclairage sur donc ces publications, ces recherches dynamiques et élégantes autour donc du sommeil et de la mémoire. Merci beaucoup et Axel, on se retrouve demain pour une nouvelle Une de la Science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, manger des céréales complètes améliorerait le métabolisme. Dans deux publications de l'American Journal of Clinical Nutrition, des chercheurs affirment que les céréales complètes comparées aux céréales raffinées permettraient de perdre près de 100 calories supplémentaires par jour, soit l'équivalent d'une marche de 30 minutes, sans impacter la sensation de faim ou la forme des patients. Cette perte serait due à une plus grande efficacité de la consommation des calories par le corps et à une meilleure élimination fécale. 25%, c'est la part de la population des antilopes saïga mongoles qui serait morte en près d'un mois. Cela représente 2500 individus. Selon les scientifiques, ces antilopes seraient décimées par la peste des petits ruminants, un virus d'origine africaine arrivé en Asie centrale depuis 10 ans, qui normalement ne touche que des animaux domestiques comme les chèvres ou les moutons. Cette épidémie intervient alors que le saïga est considéré en danger critique d'extinction depuis 15 ans. En 2015, près de 210 000 individus avaient succombé à une infection bactérienne au Kazakhstan. Et puis la revue Science entend défendre la science contre l'administration Trump. Dans un éditorial paru hier, Rushdie Holt, le directeur général de la célébrissime revue américaine, appelle la communauté scientifique à défendre la production scientifique et les décisions politiques qui en découlent, craignant que la nouvelle administration américaine ne soit supplantée par l'idéologie avec les faits alternatifs. Le directeur de Science demande aux scientifiques de prendre la parole et de défendre publiquement leur démarche.